Alors, comme c'est un marathon, on va aller vite. Et je propose qu'on joue aux chiffres et aux lettres. Enfin, surtout aux lettres. Mais on va commencer par un chiffre, si vous me suivez. Donc, 8. 8 comme votre 8e roman, à l'âge de 32 ans, vu publié donc Stupeur et Tremblement. A-t-on conscience d'écrire un best-seller ?
Mais pas du tout. Quand j'ai écrit Stupeur et Tremblement, je voulais que ma destinée de martyr s'accomplisse, puisque ma véritable ambition était de devenir martyr. Et ça m'est réellement arrivé, puisque c'est une histoire vraie, ce que je raconte dans Stupeur et Tremblement. Je raconte mon histoire 1990 dans une grande entreprise japonaise. Je rappelle les faits. En 89, je pars au Japon avec l'ambition de devenir japonaise. La première année, je réapprends le japonais qui avait été la langue de ma petite enfance. La deuxième année, je suis engagée dans l'une des plus grandes entreprises japonaises, l'une des 7 Sogo Shosha, qui sont ces espèces de monstres financiers qui sont les grandes puissances du Japon, les véritables dirigeantes du Japon. J'y entre en ayant la conviction qu'un grand destin m'attend, car enfin je maîtrise parfaitement la langue japonaise et je me sens extrêmement brillante et compétente. Et c'est là que commence une chute sociale tout à fait extraordinaire, puisque engagée comme interprète belgo-japonaise, on sent tout de suite qu'il y a l'erreur est déjà comprise dans l'énoncé. Je vais me retrouver en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Dame pipi de l'entreprise.
Alors, évidemment, vous avez complètement grillé mon jeu de chiffres et lettres, mais ce n'est pas grave. Alors, est-ce comme Stupeur et Tremblement ? C'est un titre génial, finalement, qui va être utilisé après dans toutes les conversations. Vous souvenez-vous à quel moment, je crois qu'il fait référence à l'ancien protocole impérial, vous souvenez-vous à quel moment vous l'avez trouvé, ce titre ?
Oui, j'étais en cours d'écriture du livre et je voyais bien que ce livre, bien sûr, racontait des choses effroyables qui m'étaient en même temps arrivées et qui en même temps étaient drôles et qui en même temps étaient typiquement japonaises, parce que japonaises dans ce traitement de l'étranger, vous savez, à la fois les Japonais sont les gens les plus accueillants au monde et à la fois s'ils peuvent mettre l'étranger face à son propre ridicule, pourquoi s'en priver ? Du coup, j'ai pensé à cette merveilleuse formule du protocole impérial japonais. Il est stipulé que tout Japonais parlera à l'empereur avec stupeur et tremblement. Et cette attitude de stupeur et tremblement résume exactement ce qui a été mon attitude pendant toute l'année que j'ai passée dans l'entreprise japonaise. Et ce n'est pas une expérience si spéciale que cela. Disons que j'y apportais bien sûr ma maladresse toute naturelle et inimitable, mais je pense qu'à peu de choses près, j'ai connu la première année d'entreprise que connaît toute personne qui entre dans une entreprise japonaise, a plus forte raison toute femme.
Alors, ça me pousse à parler du c'est comme choc des cultures. N'est-ce pas aussi cette description irrésistible de ce choc des cultures qui est l'une des clés du succès de ce livre ?
Je pense, mais je rappelle que je n'ai pas du tout, quand j'ai écrit ce livre, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre comique. Je pense que l'explication de l'effet comique de ce livre, c'est la distance. Je n'aurais jamais pu écrire ce livre avant 1998. Je l'ai écrit en 98, paru en 99. Somme toute, quand j'ai vécu l'histoire racontée dans Stupeur et Tremblement toute l'année 90, je n'ai pas ri du tout. C'était une expérience abominable. Relisez le livre, franchement, il n'y a pas de quoi rire. Enfin, quand on le vit vraiment, il n'y a pas de quoi rire. Je vous assure que nettoyer pour de vrai des toilettes, bon. Mais comme j'avais attendu une durée, j'avais attendu que cette histoire ne me fasse plus souffrir. Et dès l'instant
où ça a pris 8 ans alors.
Ben oui, il a fallu 8 ans pour que cette histoire ne me fasse plus souffrir, pour que la bonne distance se soit installée. Et je pense que le comique du livre est l'effet de la distance. Quand on raconte des atrocités avec une distance suffisante, c'est inévitablement poilant.
Donc, on l'a bien vu, c'est A comme Amélie. Donc, ce personnage principal s'appelle Amélie. Est-ce votre ouvrage le plus autobiographique ?
C'est bien sûr un ouvrage totalement autobiographique. Il y en a d'autres. Métaphysique des tubes, ni d'Ève ni d'Adam, etc. Biographie de la fin. Mais celui-ci était... même si ce n'était pas mon premier ouvrage autobiographique, c'était le premier dont le caractère autobiographique pouvait paraître choquant. Puisque... voilà, je me souviens très bien qu'à l'époque, bon, beaucoup de gens ont ri, mais il y a eu aussi beaucoup de... jeunes publics, en particulier de publics lycéens, pour venir m'engueuler lors des séances de dédicaces en disant mais c'est scandaleux, comment est-ce que vous avez pu accepter de vous faire traiter comme ça? En vérité, vous êtes masochiste. Et pourtant, j'ai la conviction que je ne suis absolument pas masochiste. Je rappelle que j'étais partie au Japon dans l'intention de devenir japonaise, pas du tout pour faire la révolution. Donc, j'étais prête à me plier à tous les usages locaux, y compris les plus humiliants.
Oui, parce que H comme hiérarchie, et c'est là que vous faites aussi une description terrible de la firme japonaise, une entreprise qui finalement dévore ses employés, dans laquelle il y a des chefs totalement féroces, notamment la vôtre. Je me demandais, pensez-vous que cela a changé aujourd'hui? Ou est-ce que quelques années plus tard, l'ambiance dans une grande entreprise japonaise, à votre avis, est-elle toujours la même?
Je n'ai aucun moyen de le savoir. Depuis 1960, on dit que le Japon change. C'est le grand slogan, c'est le Japon change. Et de fait, pour ce qui est de la technologie, il n'y a pas de doute qu'il change. Pour ce qui est des catastrophes nucléaires, il n'y a pas de doute qu'il change. Même économiquement, il change puisque la crise s'est installée à partir de 1995 et qu'elle n'a pas cessé d'empirer. Mais pour ce qui est des mœurs, Je n'en suis pas sûre. C'est un livre qui a fait un grand scandale au Japon. Aujourd'hui, le scandale s'atténue parce que les Japonais me disent « Oui, mais ce que vous décrivez dans ce livre, c'est le Japon de 1990. Depuis, il a tellement changé. » Je n'ai pas la preuve de ce que j'avance, mais ça m'étonnerait que ça ait beaucoup changé. Je dirais plutôt que j'ai plutôt l'impression que c'est le reste du monde qui, de plus en plus, a tendance à imiter le Japon. C'est ce qui fait que Stupeur et tremblement est un livre, finalement, de moins en moins japonais et de plus en plus mondial.
Justement, T comme traduction. Combien de traductions de ce livre a-t-il existé?
46.
C'est colossal. C'est votre roman qui a été le plus traduit dans le monde?
Je pense que oui. Y compris dans des langues telles que le... comment ça s'appelle encore? L'espéranto. J'adore l'idée que ce livre se traduit en... C'est une ferme de l'Allier qui est mon éditeur espérantiste. J'adore cette idée.
Mais au Japon, il y a eu évidemment des réticences. A-t-il été traduit tout de suite au Japon?
Oui. Alors ça, c'est vraiment un grand crédit à faire au Japon. C'est évidemment un livre très critique à l'égard du système japonais qui a aussitôt été acheté et traduit par le Japon. Si j'avais écrit un tel livre sur la Chine populaire, je ne suis pas persuadée que la réaction aurait été la même. Alors, bien évidemment, il a été très abondamment critiqué par les Japonais, encore que pas par tous. Disons, pour simplifier, je dirais que les puissants Japonais ont dit que c'était un scandale et une calomnie de pauvres Belges qui n'avaient rien compris. Mais il s'est trouvé énormément de petits employés japonais pour me dire « mais oui, c'est exactement ça ».
Et vous en parliez tout à l'heure de ce merveilleux job qui n'était pas un job de dame pipi. 7 mois quand même, c'est pas rien.
Écoutez, je vous assure...
Et vous avez même songé à vous défenestrer vraiment à un moment donné?
C'était une défenestration poétique, mais je rappelle que ce n'est pas en nettoyant les toilettes de l'entreprise que j'ai le plus souffert. C'est en étant comptable de l'entreprise que j'ai le plus souffert. Parce qu'au moins, quand je nettoyais les toilettes, je comprenais ce qu'on me demandait. C'était déjà un progrès par rapport à ma précédente affectation qui consistait à corriger les livres de compte. Enfin, ça a été, sans le vouloir, ça a été une vengeance extraordinaire parce que j'ai injecté des erreurs dans la comptabilité de l'entreprise pour au moins 20 ans.
Et vous posez cette question, vous vous étonnez qu'il n'y ait pas plus de suicides d'employés japonais finalement?
Oui, c'est le pays au monde où on se suicide le plus et notamment sur son lieu de travail. Très sincèrement, pour avoir vécu l'expérience de l'intérieur, je suis étonnée que le suicide y soit si rare. Parce que, somme toute, moi j'avais une porte de sortie, ma nationalité me permettait d'aller vivre dans un autre pays. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que les Japonais de l'intérieur font pour supporter pendant 40 ans de leur vie une telle situation?
Il y a les Japonais, mais il y a aussi les Japonaises. Oui. Parce que F comme femme, parce qu'on voit bien que dans ce système, si l'employé japonais n'est pas très bien traité, l'employé japonaise, c'est encore pire.
C'est évidemment pire.
Il y a une espèce de mépris de la femme et de phobie de l'individualisme. C'est tout vous, si je puis dire. Ça vous, c'est pas vraiment votre tasse de thé.
Mais c'est,
que cet environnement, que cette ambiance.
Le malheur de cette misogynie japonaise est qu'elle ne repose sur aucune idéologie moderne, vu que les Japonais sont tous d'accord aujourd'hui pour dire que la femme est l'égale de l'homme. Ils en sont tous convaincus, mais ça n'a absolument rien changé à leur fonctionnement d'entreprise. Donc, on considère la femme comme l'égale de l'homme, mais elle est tout aussi maltraitée qu'avant. Quelque part, ça rend le système encore plus pervers. Les femmes japonaises n'ont presque aucun espoir d'ascension sociale dans une entreprise. À diplôme égal, les probabilités qu'une femme s'élève, mais quand je dis s'élève, ce n'est pas pour devenir chef d'entreprise, hein, mais qu'elle s'élève un tout petit peu, sont absolument minimes. Et puis, bien sûr, il y a... quand une femme une japonaise de 25 ans n'est pas mariée, c'est tout de suite la honte sociale. La femme reste un être qui doit se marier et bien évidemment qui doit avoir des enfants.
Et ne plus travailler ou rester mais éventuellement à la maison.
C'est vrai qu'on voit, beaucoup de femmes déserter l'entreprise alors qu'elles sont surdiplômées et on ne peut que les comprendre. Quand elles ont fait le tour de la question, elles se disent que finalement avoir une vie nulle chez soi, c'est quand même moins pénible que de se faire tout le temps humilier sur son lieu de travail.
Eux comme excuse, vous écrivez, un Japonais qui s'excuse pour de vrai, cela arrive environ une fois par siècle.
Oui, alors il faut...
C'est un trait d'humour.
Il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par excuse. Nous avons tous remarqué que les Japonais s'excusent continuellement, mais ils s'excusent pour des broutilles pour lesquelles il n'y a pas lieu de s'excuser. En revanche, par exemple, les Chinois et les Coréens ont attendu, espéré, exigé des excuses historiques pour le mal commis par le Japon pendant la dernière guerre. D'abord, les Japonais ont attendu 40 ans pour dire quelque chose. Et puis, quand après 40 ans, ils ont daigné s'exprimer, ça a été encore pire, puisqu'ils se sont excusés pour la gomewaku, c'est-à-dire l'impression vaguement négative qu'ils avaient laissée pendant la Deuxième Guerre mondiale en Chine et en Corée. Ce qui fait que finalement, ils auraient mieux fait de ne rien dire du tout, parce que l'impression vaguement négative, c'était une insulte supplémentaire par rapport aux atrocités commises, bien sûr.
Eux, comme exil, il me semble qu'au terme de cette année compliquée au Japon, vous sentiez ni japonaise, ni française, ni vraiment belge. Est-ce que l'exil n'était pas votre véritable nationalité, finalement ?
Oui, l'exil est évidemment ma véritable nationalité, mais depuis lors, il s'est passé des choses. Je rappelle que tout ceci date de 90 puis 99. Bon, depuis lors, il y a eu la fameuse année 2008 où la Belgique a failli disparaître pour de bon. Et je vous assure que ça m'a beaucoup fait réfléchir. Là, pour le coup, j'ai commencé vraiment à paniquer en me disant mais somme toute, ce pays ridicule, ce pays de rien du tout, ce pays à l'identité si vague est un pays qui me correspond très profondément. Et donc, si ce pays venait à disparaître, eh bien, vraiment, pour le coup, je serais apatride. Donc, j'ai mis vraiment le temps, mais je pense finalement que je suis vraiment un écrivain belge.
Vous êtes d'ailleurs membre de l'Académie royale de Belgique, mais c'est l'Académie française qui vous a remis, en cette année 99, son grand prix du roman français. Cela a été un grand bonheur pour vous. Est-ce que ce genre de récompense vous ravit ?
Oui, bien sûr, c'est très agréable de recevoir un très très beau et prestigieux prix littéraire français. En plus, je me souviens qu'il était très bien doté, donc ça m'a permis de refaire toutes mes fenêtres. Donc c'était...
Et Dieu sait que dans le château de Madame la Baronne, il y a des fenêtres. T'es comme trilogie, donc il y a eu Stupeur et Tremblement. Après, il y a, sur le Japon, il n'y a encore eu ni d'Ève ni d'Adam. Oui. Puis la Nostalgie heureuse, oui. Ça forme quasiment une trilogie.
C'est vrai.
Y aura-t-il un quatrième
Écoutez, je ne sais pas du tout ce que la vie me réserve. Beaucoup de mes lecteurs aimeraient qu'il y ait une suite à l'histoire japonaise, mais vous l'avez bien vu par vous-même. Vous m'avez assez vu ici pour vous douter que maintenant je commence ma période française. Donc, mais c'est vrai, je commence tout doucement à raconter ce suprême exotisme qu'est l'exotisme français. Mon premier roman français, c'était Pétronie, c'était le portrait d'une jeune Française. Mais je suis encore en train de vous observer. Je crois qu'il y aura d'autres romans dans ma période française.
Et enfin, X comme X millions. Vous vous souvenez de combien de millions d'exemplaires ? Regardez pas comme ça. Vous avez vendu de ce roman en France ou à travers le monde ?
Beaucoup.
Ah, c'est un beau chiffre. Et je crois qu'il est 32, c'est 15 minutes. C'est parfait.
Vous êtes
merci
formidable.
Beaucoup,
bravo, Marianne. Pour...